homme de lettres, responsable politique, ancien premier ministre du Congo-Brazzaville, également ancien ambassadeur du Congo en France, Marie-Joseph Henry, plus connu sous le nom Henri Lopez, son nom de plume, est décédé le 2 novembre 2023 à 86 ans à Suresnes, en France. Né le 12 septembre 1937 à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, dans l'ancien Congo belge, Henri Lopez était l'un des plus talentueux écrivains de sa génération. Il a contribué au fait que le Congo soit appelé le quartier latin de l'Afrique centrale. Sa plume était libre, alors que le marxisme-léninisme battait son plein. Il se revendique communiste et fait partie du mouvement révolutionnaire qui évince en 1963 l'abbé Fulbert Youlou, premier président du Congo indépendant. Henri Lopez grandit de l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville, aux côtés de ses deux parents, tous métis. Il étudie entre Brazzaville, au Congo, et Bangui, en Centrafrique, avant de poursuivre des études supérieures à Nantes et Paris, en France. Puis, il enseigne à l'École normale supérieure de l'Afrique centrale à partir de 1965 à Brazzaville, comme professeur d'histoire. Membre du Parti congolais du travail, Henri Lopez occupe tour à tour le portefeuille de ministre de l'Éducation nationale en 1969, ministre des Affaires étrangères en 1972 et le 28 juillet 1973, il est nommé Premier ministre. De 1977 à 1980, Henri Lopez est ministre des Finances. De 1982 à 1998, il assure les fonctions de directeur adjoint pour la culture et les relations extérieures à l'UNESCO avant d'être nommé ambassadeur du Congo en France. En tant qu'écrivain, Henri Lopez est considéré comme l'un des représentants les plus connus de la littérature moderne. C'est en 1971 qu'Henri Lopez fait une entrée très remarquée dans le monde des lettres africaines. Cette année-là, il publie Tribalique aux éditions Clé à Yaoundé, au Cameroun. En 1972, il est lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire de l'Association des écrivains de langue française pour son livre Tribalique. En 1993, l'Académie française lui décerne le Grand Prix de la Francophonie. La même année, il devient docteur honoris causa de l'Université Paris 12 et en 2002 de l'Université Laval au Québec. Ambassadeur de la République du Congo en France de 1998 à 2016, Henri Lopez avait quitté ses fonctions politiques pour se consacrer à plein temps à l'écriture. Fin connaisseur des lettres en général, et de celle du continent africain en particulier, l'écrivain togolais Sammy Tchak dit d'Henri Lopez, et nous citons, « L'auteur du Pleurer Rire nous laisse à travers tous ses livres un rire qui interrogera toujours. » Et sur sa page Facebook, son ami et compatriote Alain Mabankou décrit, et nous le citons, « Nous avions tous admiré sa plume traversée par une ironie décapante, son humour fin, et son introspection des mœurs congolaises. » Fin de citation. Pour notre part, en hommage à cette grande plume de la littérature africaine post-indépendance, ce romancier du métissage par excellence, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter, pour ceux qui sont fidèles à notre espace plaisir de lire, aujourd'hui, la lecture radiophonique de deux des plus célèbres récits d'Henri Lopez, extrait de son non moins célèbre recueil de nouvelles Tribalique, à savoir Monsieur le député et l'avance. Bonne écoute de ces deux lectures radiophoniques en hommage, nous le rappelons, à l'écrivain congolais décédé le 2 novembre 2023 en France à 86 ans, Henri Lopez, de son nom à l'état civil, Marie-Joseph Henry.
Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi. Thank you.
nous vous proposons la nouvelle intitulée « Monsieur le député », extrait de son recueil de nouvelles tribaliques. « Monsieur le député » est une nouvelle qui a pour figure centrale le député Ngwaku Ngwaku. Homme influent mais irresponsable et infidèle, il est la caricature de ces hommes politiques qui, en Afrique, disent une chose en plein jour et font le contraire une fois la nuit tombée. Devant la Fédération nationale des femmes de son pays, dont il est un élu, Ngwaku Ngwaku prononce un discours pompeux, applaudi et apprécié de tous, car faisant l'apologie de la femme et l'encourageant dans l'émancipation. Cependant, dans son ménage, c'est tout le contraire, sans oublier sa relation extra-conjugale qui lui sert juste de passe-temps. Retrouvez dans cette lecture radiophonique Ousmane Kanté dans le rôle du député Ngwaku Ngwaku, Sonia Nzian dans le rôle de l'épouse du député Ngwaku Ngwaku, Diet Chris Ryan dans le rôle du fils du député Ngwaku Ngwaku, Linda Balier dans le rôle de la fille du député Ngwaku Ngwaku, Bénédicte Bolou dans celui de Marie-Thérèse, la maîtresse du député Ngwaku Ngwaku, Bonnie Kabie dans le rôle de l'homme du bar, Ghislain Koulibaly dans celui du speaker et Aoussi Potin dans le rôle du narrateur.
Le colonialisme a imposé un système économique qui a asservi nos sœurs. C'est à nous les hommes qu'il revient, dans l'étape actuelle, de libérer économiquement nos couches fondamentales en général et nos femmes en particulier. Nos femmes doivent avoir accès aux métiers auxquels elles ont droit. Il est inconcevable que dans un pays indépendant comme le nôtre, où des milliers de filles vont à l'école, les emplois de vendeuses dans les magasins ou de secrétaires ne reviennent qu'aux expatriés. Sœurs, nous profitons de votre congrès pour demander avec solennité à notre Assemblée nationale et à notre gouvernement ce qu'ils attendent pour que les emplois de serveuses dans les bars et les boîtes de nuit soient définitivement réservés aux Africaines et interdits aux Européennes. Les salaires de nos femmes dans ces différents métiers doivent être égaux à ceux que percevaient les Européennes. Car, comme le disait... je crois bien que c'est La Fontaine. Car, comme disais-je, que disait La Fontaine, à travail égal, salaire égal. Il est temps aussi que cessent définitivement les préjugés qui font que certains pères, au nom d'une étroitesse d'esprit, refusent encore de faire continuer des études à leurs filles. La femme a les mêmes droits que l'homme. Certains hommes ne veulent toujours pas admettre cette vérité. C'est pourquoi je me tourne vers vous, mes sœurs, et vous dis que seules les femmes se libéreront elles-mêmes de la tyrannie masculine. À l'heure du tribalisme, à l'heure où des hommes par le monde se tuent sans merci et comme des fous, je dis tout haut de cette tribune que seule la femme nous aidera à dépasser les préjugés des tribus et à obtenir la paix du monde.
Le député Ngwaku Ngwaku a parlé ainsi pendant 20 minutes, montre en main. Quand il a fini, il s'éponge le front. La foule dans la salle de conférence de la maison du parti éclate littéralement de joie. Des hommes et des femmes se tapent sur le dos en grosse accolade, éclatent de rire et crient « Papa Ngwaku Ngwaku !» Lui-même répond une autre partie de la salle. Certaines femmes dansent sur la place. Tandis que les bébés qui sont dans leur dos plissent le front d'être ainsi brusquement réveillés de leur sieste. Le garde du corps enlève cérémonieusement l'écharpe du député et prend la chemise où est mise en sandwich le discours que vient de prononcer Ngwaku Ngwaku. La foule en liesse n'arrive pas à calmer son délire. Il est maintenant 20h. Ngwaku Ngwaku est rentré chez lui. Son boy se précipite pour prendre sa sacoche. Il se jette sur un fauteuil.
Bouka! Bouka! Viens voir papa!
Le gamin grimpe sur les genoux de son père. Ngwaku Ngwaku le regarde avec fierté. C'est le seul garçon qu'il a, son 7e enfant.
Papa, toi tu ne m'as pas acheté un Apollo 12.
Qu'est-ce que c'est encore que ça?
Akpa en a un, lui. Son père le lui a acheté.
Emilienne! Emilienne!
Elle révise sa composition!
Crie la mère de la cuisine.
Composition? C'est pas en composant qu'elle apprendra à être égale à son mari. Qu'elle m'apporte mes babouches!
Écoute, Ngwaku Ngwaku, sois un peu compréhensif avec cette pauvre enfant.
Non, mais depuis quand les femmes ont-elles à faire des remarques à leur mari? C'est toi maintenant qui vas m'apprendre comment élever ma fille?
Tiens, papa, voilà tes babouches.
Ah, merci, mon fils. Toi, au moins, tu penses à moi. Mais c'est quand même trop fort. Ce sont les hommes qui doivent travailler ici. Emilienne! Alors, combien de fois faut-il t'appeler?
Mais papa, pardon, je n'entendais pas.
Où étais-tu?
Là, dans ma chambre.
Dans ta chambre? À rêver sans doute, oui.
Non, papa, je révisais ma composition de mathématiques.
Eh bien, pour faire des mathématiques, il ne faut pas rêver. Si tu faisais des mathématiques, tu devais faire attention. Et quand on fait attention, on entend les gens qui vous appellent. Apporte-moi mon whisky.
Emilienne va vers le buffet. Elle fait les gestes mécaniques. Elle rêve à l'internat. Elle envie ses camarades qui sont loin de la férule familiale.
Ce doit être bon de ne dépendre que de soi-même. Les parents, ils pensent vous aider avec leurs principes et ne voient même pas que vous les jugez. Ah, tiens, la bouteille est presque vide.
Emilienne cherche en vain à tous les étages du buffet.
Alors, il vient ce whisky?
Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Eh bien, pendant 2 jours, je t'interdis de jouer avec les voisines.
Mais ce n'est pas de ma faute, papa.
Tu dois savoir que quand la bouteille est à moitié vide, il faut en racheter une autre. Qu'on m'apporte de la bière alors?
Il allume son poste de télévision. Myriam Makeba chante. Il aime bien l'entendre, mais ce soir, cela l'énerve. C'est en effet le film qu'on a enregistré lors de son dernier récital de la ville. Ngwaku Ngwaku le connaît par cœur, car on le passe au moins 2 fois par semaine. Quand les programmateurs de la télévision sont à court d'imagination pour réaliser une émission, ils aiment bien ainsi passer un film qu'ils ont sous la main, même si on l'a déjà vu 100 fois. Ngwaku Ngwaku s'ennuie. Il regarde sa montre.
Quand peut-on passer à table?
Encore 5 minutes,
dit la mère de la cuisine.
J'ai faim.
Mon riz n'est pas encore cuit.
Toujours la même histoire. C'est jamais prêt quand vous voulez.
Myriam Makeba chante maintenant Malaika.
Shindana malisi na we ningekuwa malaika.
Là, Ngwaku Ngwaku se laisse prendre. C'est le type de la belle chanson. Ensuite, la chanteuse sud-africaine en entame une où elle fait claquer sa langue et où elle danse en faisant tanguer sa croupe comme un bateau sur les vagues.
À table.
Ngwaku Ngwaku ne répond pas.
À table, ça va être froid.
Ngwaku Ngwaku retient sa colère. Il n'aime pas qu'on crie lorsqu'il écoute la musique. Il va s'asseoir sur une chaise face au poste de télévision. Myriam continue à chanter.
Encore du riz et de la viande en sauce.
En ce moment, il n'y a pas grand-chose au marché.
Pas grand-chose, il n'y a pas de poisson, non?
C'est bien la première fois que tu me fais une suggestion pour le menu. Varier le menu, c'est bien joli, mais on ne peut pas le faire à l'infini. Quand le matin, je te demande ce dont tu as envie, tu prends ton cartable et tu files au bureau.
Il ne manquerait plus que ça. Tu trouves que je n'ai pas assez de choses auxquelles réfléchir? S'il faut encore m'occuper de cuisine. Tu n'as pas à travailler au bureau, toi? C'est moi qui rapporte l'argent.
Si tu veux qu'on échange, ce sera avec plaisir.
Mes activités ne sont pas des activités de femmes. Je connais beaucoup de femmes qui rêvent d'être à ta place, avoir un mari qui vous assure la cuisinière à gaz, dernier modèle, le réfrigérateur, l'argent.
L'argent? Avec ce que tu me donnes par semaine, il faut bien se creuser la tête pour nourrir une grande famille comme la nôtre.
On voit bien que ce n'est pas toi qui gagnes l'argent.
Un speaker présente maintenant les informations. Il donne des nouvelles nationales.
Taisez-vous, bon Dieu, que je puisse écouter.
Aujourd'hui, s'est ouvert le congrès de la Fédération nationale des femmes avant-gardistes. Divers discours ont été prononcés. C'est le deuxième congrès de la Fédération depuis sa création. De nombreuses délégations d'invités sont venues des pays frères africains et des pays amis d'Europe, d'Amérique et d'Asie.
Ngwaku Ngwaku fulmine.
Dès demain, je vais voir le ministre de l'Information pour qu'il me sanctionne ce speaker. Il n'a rien dit de mon discours.
Il pousse son assiette vers l'avant.
Tiens, d'ailleurs, je n'ai plus faim. On parle de la guerre du Nigeria. Ils racontent toujours la même chose sur cette guerre. Et les filles, elles ne peuvent pas t'aider à faire la cuisine ou le ménage? Toi, Marceline, par exemple, n'oublie pas que tu es une femme. Le premier travail d'une femme, c'est le travail domestique.
Enfin, comprends-toi aussi. Tu sais bien que Marceline prépare son bac cette année.
Et vous croyez que c'est avec le bac qu'elle retiendra son mari à la maison? C'est avec de bons plats. Oui, avec autre chose aussi.
Tu pourras au moins faire attention à ce que tu dis.
Oh, papa, regardez!
La télévision montre de jeunes enfants bien frais. On dirait des squelettes avec de gros ventres. Le silence saisit toute la famille.
Pourquoi ils sont là comme ça, ces enfants?
C'est pas de leur faute.
Ngwaku Ngwaku se lève. Il va dans sa chambre. Il jette ses habits en désordre sur le lit tout en sifflotant. Sa femme rangera cela dans l'armoire. Il met un pantalon gris clair et un mini boubou en tissu pagne avec des galons dorés aux manches, aux poches et au col. Il se regarde dans la glace. Il a rajeuni. Il allume une cigarette et sort en sifflotant dans la nuit. Le bar, venez voir, se trouve presque à la sortie de la ville, dans une rue sans lumière. Le bar, lui, a l'électricité pourtant. C'est que la patronne Marguerite est une jeune veuve d'une beauté remarquable. Très régulier du visage, sein qu'on devine bien planté et décent sous la camisole, longue jambe de façon qu'on s'attarde à regarder quand elle met sa robe collante et ses souliers à talons. Certaines la prennent pour une métisse, mais enfin, ceux qui la connaissent depuis l'enfance savent que son teint a éclairci depuis qu'on vend certains produits américains. Bref, Marguerite est très recherchée. Et comme elle ne peut satisfaire tout le monde en même temps, elle a des cousines qui vivent là, presque aussi belles qu'elle. Ainsi, lorsqu'une haute personnalité amène à venir voir une bande de hautes personnalités en mission, il leur prouve son pouvoir en les laissant danser corps à corps avec Marguerite. Vers 1h du matin, il va lui parler à l'oreille. Alors, elle va faire ça avec notre haute personnalité tandis que Marguerite donne l'ordre à chacune de ses cousines d'aller bien faire ça avec les hautes personnalités étrangères. C'est ainsi que Marguerite, en échange, obtient ce qu'elle veut. Il lui a suffi de 2 mois d'assiduité avec le ministre de l'Énergie pour obtenir l'électricité dans son bar. Marie-Thérèse a dû prendre un taxi pour venir jusqu'ici. Elle a hésité un moment à entrer. L'énergie électrique n'est pas utilisée à éclairer la salle, mais pour l'électrophone. Les ampoules ont été peintes en rouge, de sorte que ce sont des ombres rougeâtres qu'on voit se déplacer ou être assises là-bas au comptoir. La salle est divisée en des espèces de petits compartiments séparés les uns des autres par des cloisons en bambou. Lorsque vous êtes dans un de ces compartiments, vous êtes à l'abri des regards indiscrets. Marie-Thérèse en choisit un et s'assoit là sur un petit banc d'osier très bas. Marguerite l'a vu. Elle fait un signe de tête à l'une de ses cousines qui, entraînant les pieds, s'avance vers la nouvelle cliente.
Non, je ne prends rien pour le moment, j'attends quelqu'un.
Quand la cousine revient vers le bar, un homme qui est assis là sur un haut tabouret la saisit et l'enlace à bras le corps pour danser la rumba. Aussitôt, la cousine perd sa nonchalance. Les deux bas-ventres sont en contact et se meuvent en rond en de larges mouvements de frottement. Ils n'ont plus rien à se cacher, pense Marie-Thérèse. Si la lumière n'était pas si tamisée, on verrait sans doute qu'ils ont les yeux clos. Le spectacle gêne un peu Marie-Thérèse. À la fin de la danse, l'homme retourne au bar et plaisante avec toutes les cousines en éclatant de rire. Au morceau suivant, il se dirige vers Marie-Thérèse. Il a l'air si sûr de lui et a des yeux si beaux qu'elle est paralysée.
Non, monsieur.
Je vous dégoûte alors.
Elle tourne la tête. C'est à ce moment-là qu'entre Ngwaku Ngwaku.
Ah, pardon, monsieur le député. Pardon, je ne savais pas.
Ngwaku Ngwaku ne répond pas. Il tourne la tête et s'assoit. En lui-même, il marmonne.
C'est ce petit con de bois-là. Il va voir comment je m'appelle.
La cousine est revenue. Elle blague un moment avec monsieur le député. Ce sont de vieilles connaissances. Il n'y a pas de protocole. Monsieur le député Ngwaku Ngwaku est l'homme le plus simple du monde. C'est un enfant du peuple qui n'a pas peur de retourner en contact avec la masse. Il commande. Quand la servante revient avec le plateau de consommation et que monsieur le député veut payer, la cousine dit que le monsieur du bar a déjà réglé. Comme c'est une pachanga qu'on joue maintenant, Marie-Thérèse a envie de danser. Mais il n'y a personne sur la piste et tout le monde au bar les regarde. Tous sourient. Sourire de voir une jeune fille qui exprime sa jeunesse à chaque note que joue l'orchestre, avec ses hanches, ses jambes, ses épaules, un large sourire sain aux lèvres. Sourire d'attendrissement aussi devant cet homme de 50 ans pour qui la calvitie et le ventre ne sont pas un problème tant il danse allègrement. L'homme au bar ne peut s'empêcher de remarquer.
Oui, ma sœur, c'est ça l'Afrique, notre négritude, la civilisation de la danse en dépit des âges.
Mais le couple ne se soucie pas du bar. Ils sont captivés l'un par l'autre. Au bout de trois danses, Ngwaku Ngwaku veut s'en aller.
Déjà, on est bien ici, tu ne trouves pas?
On sera mieux ailleurs.
Il la prend par le bras, la soulève et disparaît avec elle dans la nuit noire. Devant le relais hôtel, il répète à Marie-Thérèse.
J'ai fait réserver une chambre au nom de Madame Baker par mon secrétaire. Tu te présentes donc à la réception et tu prends ta clé. Tu m'attends dans ta chambre, je serai là dans 15 minutes.
Quand elle éteint la lumière, Marie-Thérèse se sent saisie par des bras musclés et solides. Elle sent les poils de ses bras se mêler à ceux des bras de l'homme. Son souffle est déjà coupé. C'est comme ça avec lui. Elle ne peut s'empêcher de pousser un cri du fond de la gorge, comme si elle pleurait. Elle se sait damnée, mais qu'importe, elle vibre, elle vit, elle est libre. Marie-Thérèse rêve que Ngwaku Ngwaku est venu la chercher avec une grosse voiture américaine. Il est habillé de noir et tout joyeux. Il lui dit que sa femme est morte, qu'il revient de l'enterrement et qu'il vient la chercher pour l'emmener dans un autre pays. Elle n'ose y croire. Elle veut prendre quelques pagnes et quelques robes, mais Ngwaku Ngwaku lui dit qu'il ne faut pas perdre de temps. Elle saute dans la voiture et Ngwaku Ngwaku l'emmène à vive allure à l'aéroport. Sur le chemin, elle voit dans la rue beaucoup de gens qu'elle connaît et malgré la vitesse de la voiture, elle entend distinctement ce qu'ils disent. Il jette sur elle l'opprobre d'enlever un vieil homme à ses enfants et il accuse d'avoir tué Madame Ngwaku Ngwaku. Elle est toute en sueur quand elle parvient à l'aérodrome. Dans l'avion, il n'y a plus de place et on les a mis dans la cabine de pilotage. C'est Ngwaku Ngwaku qui prend les commandes de l'appareil. Il met en marche les réacteurs. L'avion roule sur la piste mais n'arrive jamais à se lever à plus de 3 mètres. On dirait que le chien noir qui poursuit Marie-Thérèse va réussir à sauter dans l'avion. Marie-Thérèse se réveille et voit Ngwaku Ngwaku debout, déjà habillé.
Il faut que je rentre maintenant.
Elle lui tend les mains en lui souriant. Il vient s'asseoir au bord du lit. Il lui embrasse la tempe et dit:
allons, il faut que je m'en aille.
Mais j'ai quelque chose à te dire.
Ah, tu cherches encore à me retenir?
Non, c'est sérieux.
Elle a pris la main de l'homme qu'elle passe sous le drap et pose sur son ventre.
Je crois que j'attends un enfant de toi.
Quoi? Mais tu plaisantes?
Non, c'est sûr.
Mais qui me prouve qu'il est de moi?
Marie-Thérèse se retourne sur le ventre et la tête dans l'oreiller qu'elle mord se met à pleurer. Elle tape le lit de ses deux poings. Elle tape des pieds.
Qu'est-ce qui te prend, petite?
Salaud. Va-t'en.
Le soleil apparaît à l'horizon et monte lentement dans le ciel. Il fera chaud aujourd'hui, sans doute. Ses rayons pénètrent par les fenêtres. Ainsi, Mademoiselle Ngwaku Ngwaku est réveillée par la clarté du jour. Elle tourne, comme chaque matin, le bouton de son transistor pour écouter le poste national. Cela l'empêche de se rendormir. Ngwaku Ngwaku a fait une intervention à l'ouverture du congrès des femmes avant-gardistes. Il a mis l'accent sur la nécessité de libérer la femme qui n'est pas un être inférieur à l'homme.
Suivons la série de nouvelles écrites par l'auteur congolais Henri Lopez avec le récit intitulé L'avance et extrait de son recueil Tribalique. Quelle est la trame de ce récit? La nouvelle L'avance présente l'exploitation des domestiques, le parasitisme et le fétichisme. Le ton est nouveau à l'époque et courageux dans une Afrique post-indépendance. Carmen, une jeune noire qui travaille chez des Européens comme bonne d'enfant ou nounou, ne peut cesser de penser à son fils Hector, gravement malade. Et elle demande à sa patronne une avance sur son salaire afin de pouvoir payer les médicaments pour soigner son fils. De mauvaise grâce, sa patronne finit par y consentir, mais promet de lui remettre l'argent que le lendemain. Carmen rentre à pied chez elle, prestement et impatiente de revoir son cher Hector. Arrivera-t-elle à temps? Pourra-t-elle revoir son fils en meilleure santé? Parviendra-t-elle à sauver son cher fils Hector? Retrouvez dans cette lecture radiophonique Sonia Nzian dans le rôle de Carmen, Bénédicte Bolou dans le rôle de la patronne de Carmen et Aoussi Potin dans le rôle du narrateur. Carmen avait elle-même avalé un quartier de mandarine et fermé les yeux. La petite fille la regardait, impassible.
Mange tout.
Comme un prêtre l'hostie, Carmen présentait le quartier d'orange. La petite tourna la tête de profil, l'air hautain.
Il était déjà 7 heures du soir. Carmen avait hâte d'en finir avec son travail. Surtout qu'elle n'avait pas encore demandé à madame. Elle parlait d'un ton plus vif en faisant de gros yeux.
Si tu ne manges pas, Françoise, je vais le dire à ta maman.
Mais la petite ne cédait pas plus. Madame était dans le salon avec monsieur et des amis qu'ils avaient invités à jouer au bridge. Elle avait déjà plusieurs fois recommandé à Carmen de ne jamais déranger quand elle était en société, selon son expression. Allait-elle malgré cela troubler la joyeuse assemblée? Carmen ne craint pas les engueulades. Les gens élèvent la voix surtout pour soulager leurs nerfs. Et dans le cas de madame, avait dit Ferdinand la sentinelle, comme son mari là-bas, elle éprouve le besoin de prendre sa revanche sur la domesticité. Alors, à quoi bon lui en vouloir? Autant encaisser en philosophe. Mais se faire ramasser devant d'autres personnes, des étrangers, c'est pire que si l'on vous giflait. Aussi, préféra-t-elle attendre. D'un autre côté, madame a la fâcheuse habitude d'ensuite parler avec sa fille comme avec une grande personne.
Ma petite Françoise, qu'est-ce que tu as mangé?
Et la petite Françoise, en faisant sa récitation, se fera un plaisir de dire qu'elle n'a pas mangé de dessert parce que les mandarines que Carmen voulait lui donner n'étaient pas bonnes. Et madame fera encore des remontrances pour ne pas lui avoir signalé cela. Alors qu'elle lui a déjà expliqué que si l'enfant n'a pas de dessert, il risque de ne pas avoir une nourriture équilibrée, etc. Et Carmen a l'habitude d'écouter cela avec sérieux. Eux, au village et là-bas, à Makelekele, ce qui leur importe, c'est que l'enfant ait le ventre plein. S'il fallait s'occuper d'équilibre, on n'en finirait plus. D'ailleurs, il faudrait que Carmen n'oublie pas de demander à madame. Il ne lui restait plus qu'une solution, agir comme le faisait sa mère quand il fallait la faire manger. D'une main, elle ouvrit la bouche de l'enfant et de l'autre, y enfonça le quartier de fruits. Françoise hurla, il fallait s'y attendre. Elle continua. Françoise criait et étouffait dans sa rage. On entendit dans le couloir comme des coups de marteau sur les carreaux. C'était les souliers de madame qui accouraient. Carmen avait gagné.
Qu'est-ce qui se passe?
Elle ne veut pas manger, madame.
Eh bien, ne la forcez pas. Pauvre petite, va, prenez les raisins dans le frigidaire. Donnez-lui, elle aime ça.
Madame prit la tête de la petite dans ses deux mains et l'embrassa plusieurs fois. Carmen est allée prendre le dessert européen. Au moment où elle revenait, comme elle a croisé madame, elle a failli lui poser la question. Mais l'atmosphère n'y était pas. Françoise a mangé les raisins avec plaisir. Ça doit être bon, car elle, habituellement si dissipée, devient sage et ne dit plus un mot lorsqu'elle mange ses fruits. Un jour, il faudra que Carmen fauche un grain de ce truc-là, car elle n'en a jamais goûté. Pendant que la petite mangeait, Carmen essuyait les fines coulées de larmes qui lui glissaient sur les joues. Au fond, elle aime beaucoup cet enfant. Depuis l'âge de 2 mois, c'est pratiquement elle qui l'élève. C'est autant sa fille que celle de madame. Même si elle plaque ce boulot, ou si madame la met à la porte, elle ne pourra s'empêcher de revenir de temps à autre pour voir comment pousse Françoise. Ensuite, il a fallu lui faire pipi, la changer et la coucher. Il était déjà 7h30. Il faisait nuit. Il fallait encore 1 heure pour arriver jusqu'à Makelekele. Mais Françoise ne voulait pas que sa bonne parte. Elle a cette fâcheuse habitude. Il faut que Carmen lui chante une chanson pour qu'elle s'endorme.
Do, do, Françoise, do. Françoise dormira bien vite. Do, do, Françoise, do. Françoise dormira bientôt.
Quand c'est fini, il faut en chanter une autre. Habituellement, au milieu de la deuxième, elle s'endort. Ce soir-là, il a fallu en chanter 3. Carmen chantait et ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à Françoise, qu'elle aimait comme son fils, qui avait le même âge qu'elle et qui pourtant lui était déjà si différent. Françoise était pleine de santé et son fils à elle avait déjà failli mourir plusieurs fois. Rien n'intimidait Françoise. Elle parlait aux personnes avec assurance, donnait des ordres aux domestiques et se montrait déjà difficile sur le choix de ses robes. Son Hector, à elle, n'ose pas parler. Lorsqu'il est en présence d'un étranger, il devient aussitôt sauvage ou bête. Il a déjà des yeux malheureux. Et pourtant, ils seront amenés à vivre la même époque. Pourront-ils se comprendre, bien que parlant la même langue? Carmen ne pense pas cela par jalousie. Non, elle voudrait qu'Hector soit bien élevé. Mais comment le pouvoir? c'est toute la société, toute la morale qu'il faudrait changer. Ce matin, elle a bien failli ne pas venir au travail. Toute la nuit, le gosse a pleuré. Il se plaignait du ventre. Il avait la diarrhée. Il a vomi au moins 3 fois. La première, il a semblé soulagé. Mais la dernière, il a même renvoyé de son petit estomac quelque chose de vert. Ensuite, elle a senti que, mécaniquement, l'estomac même expulsait et que rien n'en sortait. L'enfant souffrait visiblement. Il avait du mal à respirer. Elle a senti la sueur sur son front. Elle a eu très peur. Elle a pensé aux 2 enfants qu'elle avait déjà perdus. Elle s'est même affolée. Elle a même failli aller réveiller sa mère qui dort dans la même clôture. Mais elle s'est retenue. Sa mère l'aurait immédiatement conduit chez le féticheur. Il en a été ainsi pour les 2 autres. Et ils sont morts. Elle avait pourtant payé chaque fois l'équivalent de son salaire. Et après la mort, ce fut bien pire. Le féticheur avait conclu qu'elle perdait ses enfants parce qu'elle refusait depuis 5 ans le mari que ses parents voulaient lui donner. Et elle avait dû, en plus de sa douleur, subir les bêtises de toutes ces vieilles qui se relayaient auprès d'elle pour lui ressasser qu'elle devait se plier à la volonté, suivant le cas de Dieu, des ancêtres, des esprits ou des pauvres enfants, et qu'elle devait fléchir, qu'elle n'avait qu'à épouser Kitonga Flavien et tout serait réglé. N'était-il pas un bon parti? Ce chauffeur de l'administration avait, en dehors des heures de service, une véritable vie de patron. Possesseur de 4 taxis, il avait pu se faire construire un magasin et un bar à Wenze, Indochine. Kitonga Flavien pourrait lui permettre de ne plus travailler. Il avait d'ailleurs déjà 2 femmes, l'une à Bakongo, l'autre à Wenze, qui s'occupaient des affaires du bar. Tandis qu'elle songeait à tout cela, l'enfant s'était mis à l'appeler. Il voulait venir dormir sur sa natte. Il avait peur de rester seul. Tiendrait-il jusqu'au matin? Il y a des gens qui, quand leur enfant est malade, peuvent aussitôt décrocher un appareil, faire un numéro et se présenter peu après au domicile du docteur. Celui-ci prend alors les mesures qui s'imposent ou rassurent. Tandis que pour nous les pauvres, les dispensaires les plus proches ne sont pas ouverts la nuit. Aller à l'hôpital, vous êtes reçu par un infirmier qui se met en colère et vous fait une scène parce que vous avez osé le réveiller. Aller chez un médecin, les gens des beaux quartiers à 7 heures de la nuit n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. D'ailleurs, c'est son imagination qui l'entraîne. Aller chez un médecin privé nécessite de l'argent. À la fin, l'enfant s'était endormi au lever du jour. Quant à Carmen, il fallait qu'elle se lève pour aller chez ses patrons. De Makelekele à Mpila, elle a tous les jours 2 heures à faire à pied. Et comme madame veut qu'elle soit là à 7h30 au plus tard, il suffit de calculer. Malgré la fatigue, elle n'avait pas envie de rester dormir. Mais elle ne voulait pas non plus venir ce matin au travail. Elle aurait voulu aller à l'hôpital pour qu'on lui dise exactement ce qu'avait Hector. Quand il est malade, Carmen n'aime pas le laisser seul. Elle n'a pas l'esprit en paix. Une fois, elle a essayé de l'emmener au travail, mais madame lui a aussitôt dit qu'elle ne la payait pas pour garder son fils, mais sa fille. Elle savait bien que sa mère et les tantes allaient l'emmener voir le médecin. La famille est grande dans la tribu et un enfant, quoi qu'il arrive, n'y est jamais orphelin. Mais quand même, elle croit que les enfants doivent être élevés par leur mère. Et nous sommes encore plus nécessaires à ceux que nous avons mis au monde lorsqu'ils sont malades. Or, si elle avait consacré une journée à son fils, cette fois, la patronne l'aurait mise à la porte et elle n'aurait plus eu de quoi vivre. C'est qu'elle a été déjà absente 2 fois dans le mois. La première, elle avait vraiment la fièvre et elle a passé 2 jours sur la natte. La deuxième, c'était pour un enterrement. Madame s'était mise en colère.
Carmen, j'en ai assez. À chaque fois que j'ai besoin de vous, vous n'êtes pas là. On dirait que vous le faites exprès. Vous choisissez pour vous absenter les jours que j'ai pris des engagements. Ma chère, je vous préviens, si vous êtes encore absente 1 fois le mois, vous irez chercher du travail ailleurs.
Comment lui expliquer? Carmen a bien essayé. Mais les Blancs, ils s'imaginent que lorsque nous ne venons pas au travail, c'est aussitôt pour se reposer. Et aujourd'hui, la voici venue travailler malgré la santé de son Hector.
à midi. Sa sœur lui a fait dire que le médecin avait prescrit une ordonnance. C'est toujours la même rengaine. Avec quoi payer? Pourtant, il faut que son Hector guérisse. Et elle chante ce soir-là pour une petite fille à qui il ne manque rien et dont les parents jouent aux cartes avec des messieurs et dames bien. Quand Françoise a été endormie, Carmen est allée attendre dans la cuisine que les invités aient fini leur partie de bridge. Elle en a profité pour discuter avec Ferdinand, la vieille sentinelle. Ce sont des moments qu'elle aime bien. Elle se soulage le cœur. Ils se disent les vices qu'ils ont découverts chez leur maître. D'habitude, quand Ferdinand raconte les scènes qu'il a vécues en les mimant, Carmen rit. Ce soir, elle n'arrive pas à se départir de son sérieux. Et Ferdinand s'en aperçoit. Finalement, madame est venue dans la cuisine.
Comment, Carmen? Vous n'êtes pas encore partie?
C'était le moment le plus dur.
Madame, j'ai besoin d'argent.
Encore? Il y a à peine 10 jours que je vous ai payé.
Mon enfant est malade. Il a besoin de médicaments.
Tiens, voyez-moi ça. C'est moi la sécurité sociale? Ça fait des enfants avant d'avoir un mari. Et après, ça n'arrive pas à les élever.
Madame, ce sont les blancs qui disent comme vous.
Il est malade ce gosse? C'est que vous ne voulez pas m'écouter. Je vous avais pourtant dit qu'il fallait lui donner à manger. L'avez-vous fait?
Non, madame.
Tiens, évidemment. C'est plus vite fait de lui bourrer le ventre avec votre sale manioc, là.
Que pouvait lui répondre Carmen? Qu'elle a bien essayé le menu conseillé par madame et que cela dépasse ses moyens? On dirait que madame ne se rend pas compte qu'en une semaine, elle donne le triple de la solde mensuelle de Carmen uniquement pour nourrir son mari, sa fille, elle et leur chat. Mais si la bonne lui avait répondu cela, elle aurait mise à la porte pour insolence.
N'importe comment, je n'ai rien sur moi ce soir. Quand donc vous les indigènes comprendrez que l'argent ne tombe pas du ciel? Quand apprendrez-vous à faire des économies? Attends.
Elle a parlé encore pendant longtemps. Carmen n'a pas tout compris. Quand les gens parlent le français trop vite, elle n'a pas le temps de traduire dans sa tête. Alors, elle débranche et se contente de faire oui de la tête. C'est le cas. Peut-être cela a-t-il apitoyé madame. Elle lui a donné de l'aspirine et a promis 500 francs pour demain. Alors, Carmen, la négresse, est partie. Elle a marché pour rentrer à Makelekele. De Mpila à Makelekele, c'est loin. Aussi loin que du village d'où elle vient à l'école où on l'envoyait. Et on a le temps de penser. Elle avait envie de courir tant elle sentait qu'Hector avait besoin d'elle. Mais quand on n'a pas dormi toute une nuit et qu'on n'a eu qu'une tranche de manioc dans le ventre à midi, on ne peut pas courir. Et elle a brusquement eu l'impression que Hector l'appelait.
Le pauvre petit, quand il sera grand, m'aimera-t-il seulement? Pour gagner notre manger, je suis obligée de le laisser tout seul la journée. Peut-être qu'il m'en tiendra grief. Je me reproche de l'avoir laissé sans soin aussi longtemps, parce que j'avais confiance en la médecine des Blancs et en leur bonté. Si maman me propose d'aller chez le féticheur cette nuit, je ne pourrai plus refuser.
Et puis, elle a repensé à tout ce que madame lui a dit. Jamais elles se comprendront. Elle passe plus de temps avec elle qu'avec son fils. Madame lui fait entièrement confiance quand elle prend soin de sa fille et pourtant, ni Carmen ne peut comprendre les réactions de madame, ni celle-ci découvrir tout ce qui se passe en sa bonne et le monde dans lequel celle-ci se débat. Carmen est pour elle une éternelle insouciante et une fille peu sérieuse.
Comment vouloir que je fasse des économies avec 5000 francs? D'ailleurs, le mois dernier, elle ne m'a remis que 4000 francs. Elle m'a retenu, comme tous les mois depuis 6 mois, les 500 francs avec lesquels je lui rembourse ma montre. Ma seule folie. Ensuite, j'ai dû donner 1000 francs à la tontine de notre société. 1000 francs à ma mère, 1000 francs pour payer le retour au village de la tante et des cousins qui s'étaient incrustés chez nous depuis 1 mois. Il ne me restait que 1000 francs. Qu'est-ce que c'est 1000 francs? Madame les dépense rien qu'en nourriture chaque jour.
Les voitures passaient dans les rues mal éclairées. Celles qui croisaient Carmen l'éblouissaient. Celles qui allaient dans le même sens qu'elle manquaient de l'écraser. Et personne ne s'arrêtait pour la prendre. Et elle savait qu'au moins une voiture sur 2 était conduite par un nègre comme elle. Aujourd'hui, chacun vit sa vie. Ah, pourvu que madame n'oublie pas de lui donner l'argent des médicaments demain. En entrant dans la rue Bizarre, elle entendit des cris de femmes dans le noir. Elle comprit que, médicament ou féticheur, il était trop tard.
C'était Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré au livre et à la lecture.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.